Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, les fraudeurs s'en donnent à cœur joie, si bien que le Centre antifraude du Canada est lui-même pris pour cible.
Vous allez magasiner sur l'Internet, soyez certain ou certaine que vous allez sur des vrais sites web.
La santé est au cœur des préoccupations des autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick, qui organisent des parloirs itinérants à la recherche de solutions.
Il n'y a personne qui n'est pas au courant qu'il y a des problèmes et que la santé est en crise au Nouveau-Brunswick. Par contre, il faudra évidemment sortir de ça à un moment donné.
Atomic Flower Cannabis prend ses aises à Winnipeg en combinant spectacle et drogue.
On veut créer une sorte d'endroit où est-ce que les gens pourraient venir s'asseoir, écouter la musique, puis créer aussi un endroit où est-ce que les gens peuvent se rencontrer, s'asseoir. On a construit notre stage, on a pris un vieux gym, alors on peut avoir jusqu'à 52 personnes.
Une femme de la région d'Ottawa survit à 3 cancers, mais elle doit se battre pour en obtenir le diagnostic.
Toujours faire votre propre suivi pour obtenir vos résultats médicaux. Pas attendre que, ça fait pour moi, j'ai pas reçu mon résultat de mammogramme encore. Non. Faites vos propres suivis.
Et des artistes canadiens se font offrir une résidence de 6 semaines dans les parcs nationaux du pays. Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On lance l'émission sous le thème de la santé avec notre première invitée, Brigitte Davidson, qui revient de loin. Elle a d'abord survécu à 2 cancers du sein, puis à un 3e cancer. Le cancer du sein est, au dire de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le cancer le plus diagnostiqué au monde. Heureusement, d'immenses progrès, notamment en matière de dépistage et de traitement, ont été réalisés ces 20 dernières années, si bien que les taux de survie sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient. Et Brigitte Davidson en sait quelque chose. Elle, qui est une survivante, son premier diagnostic du cancer du sein est tombé en 1995 alors qu'elle n'avait imaginé que 29 ans. C'est vraiment jeune, dit-elle, pour une femme. Et ce verdict, elle a dû se battre pour l'avoir pendant près de 11 mois avant qu'on lui prescrive finalement une biopsie. Elle en parle avec notre journaliste à Ottawa, Marie Hillès.
Brigitte a été diagnostiquée pour la première fois d'un cancer du sein à l'âge de 29 ans. Elle raconte la bataille au quotidien.
Comme j'étais tellement jeune, je venais tout justement de commencer un nouveau emploi, sans avoir de support pour payer, comme les hypothèques et tout ça. Là, il y a tellement de frais médicaux. Tout ça à combler, c'est vraiment un échec d'en passer, surtout pour les jeunes femmes. C'est quelque chose que aucune jeune femme s'en attend.
Au début, elle a décidé d'affronter seule son cancer.
Sans avoir parlé à aucune personne ou de soutien. Et c'est quand ma belle-sœur est décédée du cancer du sein aussi, 2 ans par après, que j'ai fait une chute de butte. Alors, vraiment, j'ai tombé psychologiquement. Alors, c'est dans ce temps-là que j'ai été voir BCA, so Breast Cancer Action, Ottawa. Et c'est là que j'en ai parlé avec autres femmes dans le bureau et enfin, ils m'ont présenté un groupe de discussion que j'ai été voyager dans les écoles secondaires dans la région. Ceci m'a beaucoup aidée pour en parler aux jeunes femmes en groupe de discussion. Ça m'a sorti de mon angoisse mentale. Alors, c'est très important de s'assurer de parler à autres femmes qui ont souffert.
Ces groupes de soutien au sein de Breast Cancer Action Ottawa sont précieuses.
J'ai pu faire le bateau dragon et ceci, c'est un bateau dragon de survivantes. Alors, tous les gens sont là pour le conditionnement physique, mais aussi pour en discuter des problèmes. Si ça arrive que vous avez des échecs, vous pouvez en parler avec les gens qui sont là.
Après son premier cancer, Brigitte a encore eu 2 cancers. Un nouveau cancer du sein 15 ans après et en 2020, un cancer oral. Elle prodigue des conseils pratiques.
Toujours faire votre propre suivi pour obtenir vos résultats médicaux. Pas attendre que ça fait pour moi, j'ai pas reçu mon résultat de mammogramme encore. Ça doit qu'ils les ont pas reçus. Non. Faites vos propres suivis. Faites vos propres recherches. à l'aide des sites web canadiens. C'est bien important de voir les examens. Il y a les programmes MyChart que tu peux aller voir, la terminologie de l'examen. Vous pouvez faire vos propres recherches.
Pour consulter tous les programmes que propose Breast Cancer Action Ottawa, rendez-vous sur le site bcaott.ca.
Marie Hélès qui était en compagnie de Brigitte Davidson. Restons du côté de la santé, mais transportons-nous vers l'est du Canada, où la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick organisait le 3 novembre dernier à Saint-Quentin un premier parloir. C'est en fait un forum de discussion, un forum qui espérait en fait réunir les citoyens de la région et y aborder des enjeux relatifs à l'accessibilité des soins de santé et bien sûr traiter de la crise qui mine le système de santé dans cette province atlantique. Mais une seule main a suffi pour procéder au décompte de ceux qui ont participé à la soirée animée par le docteur Louis-Marie Simard. Seul un citoyen d'Edmundston s'est déplacé pour entendre ce que les panélistes avaient à dire. Ceci n'a pas empêché le docteur Simard de lancer quand même une discussion qui a duré près de 2 heures avec à sa table des personnalités politiques de la région. Notre journaliste Maxime Gauthier ne recule devant rien. Il était l'une des personnes présentes à ce parloir pour nous rapporter ce qui s'y est dit et s'enquérir des solutions envisagées pour colmater un système de soins de santé qui fuit de toutes parts. Et vous le verrez, les problèmes demeurent les mêmes d'un bout à l'autre du pays et les solutions proposées aussi. Maxime est en compagnie du docteur Louis-Marie Simard.
Il n'y a personne qui n'est pas au courant qu'il y a des problèmes et que la santé est en crise au Nouveau-Brunswick. Par contre, il faudra évidemment sortir de ça à un moment donné. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, il y a des causes à la pénurie de main-d'œuvre, puis il y a des facteurs qui entretiennent la pénurie. Évidemment, la demande pour les services de santé a augmenté beaucoup plus vite que l'offre. Et l'offre n'a pas augmenté pour différentes raisons. Une est évidemment la dénatalité. Je veux dire, on manque de monde, pas juste en santé, on manque de monde partout pour faire le travail. La deuxième, c'est au niveau de la formation. On a capé les admissions dans les écoles de médecine, dans les écoles de nursing, dans les écoles d'ergothérapie, physiothérapie. Alors, si vous ne produisez pas suffisamment de personnel, bien, vous allez effectivement en manquer. Et un facteur à côté qui aggrave peut-être ça, c'est que on dit que le système est public au Canada. C'est vrai que le système est public au Canada, mais on utilise du monde avec des diplômes dans le domaine de la santé dans plusieurs secteurs. Vous avez des infirmières dans à peu près tout. Vous en avez qui sont hôtesses de l'air, vous en avez dans tous les domaines. Les compagnies d'assurance en utilisent beaucoup. Et vous avez de plus en plus de services privés, que ce soit ophtalmologie, art dentaire, cosmétique, qui aussi utilisent du personnel médical et infirmier. Il y en a des solutions. Il y en a beaucoup. Puis c'est pas, il n'y aura pas une solution pour régler le problème de main-d'œuvre. Il va falloir travailler sur plusieurs solutions simultanément. La réorganisation du travail. Actuellement, il y a des professions qui monopolisent certains actes juste pour eux autres, qui pourraient être faites par d'autres à meilleur marché. Alors, il faut utiliser les compétences de tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites par du personnel qui n'ont pas besoin d'avoir un cours d'université. Alors, si on délègue ces actes-là à ces gens-là, ça va décharger un peu ceux pour lesquels on a besoin d'une plus grosse formation, médecins, infirmières ou autres consultants, psychologues, etc. Puis dans les nouvelles manières de faire les choses, c'est la participation des patients. Les patients peuvent participer à leurs propres soins, peuvent participer à l'organisation des soins, puis ils vont être capables de s'occuper de leurs soins en monopolisant moins les services des professionnels. Le troisième, c'est qu'il faut parler avec les professionnels de la santé, parce que les professionnels de la santé, si on leur demande, ils vont probablement avoir certaines solutions pour être capables d'être plus efficaces. Mais pour ça, il faut leur parler. Il ne faut pas vivre dans le secret, puis les regarder de haut, puis les mettre de côté. OK? Et au niveau du recrutement à l'international, on peut recruter beaucoup de monde avec des diplômes. Là, je donnais l'exemple, il y a des pays d'Afrique du Nord qui ont des taux de chômage extrêmement élevés chez des gens qui sont très compétents, qui sont très éduqués. Ils n'ont pas une formation canadienne, Mais si on les fait venir puis qu'on dit on va vous payer pendant un an puis vous allez côtoyer des professionnels canadiens dans le service, on va les mettre à jour puis ils vont devenir, qu'ils vont bien connaître notre culture. Puis, puis ça, ça prend pas si long que ça. Là, dire, ça peut peut-être prendre un an. Là, mais l'autre chose, c'est qu'on peut même donner de la formation à des jeunes étrangers qui viendraient au Canada, puis qu'on leur dit on va vous former, mais vous devrez travailler au Canada pendant un an, deux ans, trois ans. L'autre chose à en donner, disons, c'est il y a un vieillissement de la population, mais on ne vieillit pas toutes malades. La grande majorité des personnes de plus de 65 ans, ils ont peut-être des petits problèmes de santé, mais ils sont encore capables de donner une pleine journée d'ouvrage, ils sont en bonne santé. Et si on crée des conditions favorables, ils peuvent apporter une contribution significative, importante, à la solution de la pénurie de main-d'œuvre.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Les choses ont beaucoup changé depuis que le gouvernement de Justin Trudeau a légalisé le cannabis au pays en octobre 2018. Ce qui était auparavant une activité illégale s'est du jour au lendemain converti en une activité lucrative qui a maintenant pignon sur rue. Dans certaines provinces, les nouveaux commerces se sont rapidement multipliés. Soulignons qu'au Québec, par exemple, il n'y a pas de libre marché, mais plutôt un monopole de la société d'État créée pour l'occasion, la SQDC, et dont les finances se portent très bien, inutile de vous le dire. Mais ailleurs, comme à Winnipeg au Manitoba, des commerçants indépendants sont autorisés à occuper le plancher. C'est le cas de Gabriel Fortin-Barbier et de ses partenaires d'affaires qui font partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui vendent du cannabis en toute confiance et légalité. Gabriel est le copropriétaire de deux dispensaires Atomic Flower Cannabis à Winnipeg depuis bientôt 3 ans. La concurrence est rude et il doit faire preuve d'imagination pour se démarquer. Aurélie Nana Forson lui a ouvert son micro.
J'ai toujours voulu ouvrir un petit commerce. Moi et mes amis, on s'est mis ensemble. Puis quand on s'est rencontrés en 2016, on savait que la province allait légaliser le cannabis bientôt. Alors, on s'est dit que ça serait une bonne opportunité de rentrer dans cette business le plus tôt possible. Alors, c'est ça qu'on s'est fait. On a commencé en 2016. On a formé Cannabuds. On s'est lancé dans les affaires. Au début, la province avait un choix de loterie. Alors, fallait mettre ton nom, expliquer pourquoi vous voulez être choisi. Malheureusement, en 2017, il y a juste 4 compagnies qui allaient être choisies. Alors, on n'a pas été choisis. C'était les gros commerçants qui ont été choisis. En 2020, la province a changé leur choix de loterie pour des licences ouvertes. Alors, on avait déjà tous nos documents, on avait déjà tous nos papiers, on avait nos fonds. On était le deuxième commerçant indépendant rentré dans la province. Alors, de là, on a ouvert notre premier magasin, Atomic Flower Cannabis, qui est un magasin qui est bilingue. On a eu un bon succès dans notre première année. Alors, on a décidé d'ouvrir un deuxième magasin qui, ça fait environ 4-5 mois qu'on est ouvert sur l'apportage maintenant. Alors, on espère en ouvrir peut-être un autre, mais honnêtement, il y en a un petit peu trop en ce moment. Fait qu'on va prendre un petit peu de recul puis se concentrer sur nos magasins et ce qu'on veut faire pour le magasin de la porte sur portage, qui va être un petit peu différent. On va faire une sorte de venue pour la musique. On va avoir des soirées de comédie. Mais c'est ça, on veut créer une sorte d'endroit où est-ce que les gens pourraient venir s'asseoir, écouter la musique. On veut juste vraiment se distancer d'un dispensaire traditionnel puis créer aussi un endroit où est-ce que les gens peuvent se rencontrer, s'asseoir. On a construit notre stage, on a pris un vieux gym, alors on peut avoir jusqu'à 52 personnes. Ça serait bien pour Winnipeg aussi, ça serait quelque chose de différent. Ça serait un peu comme un café à Amsterdam où est-ce que les gens pourraient venir consommer dans un endroit où est-ce qu'il serait sécuritaire, où est-ce qu'on nous autres, on pourrait les superviser. Je pense que ça serait quelque chose de bien pour Winnipeg.
Comment est-ce que vous êtes informé finalement sur les bienfaits du cannabis, les différentes manières de le consommer?
Un petit secret, c'est que je consommais un petit peu avant la légalisation. Alors, j'avais un petit peu une idée de qu'est-ce que ça faisait. Après ça, j'ai voyagé à Vancouver et à Toronto, où est-ce qu'ils ont des salons, où est-ce qu'ils ont des centres de recherche. Alors, moi et Peter, souvent, on allait à Vancouver. On allait voir comment ça se passait. On parlait On a fait d'autres recherches aussi sur Internet, on parlait des docteurs, puis de jour à jour, on travaillait dans notre commerce, on parlait aux gens.
Pour une personne qui serait complètement néophyte, mais peut-être qui voudrait se lancer, est-ce que vous avez une procédure particulière pour juste pour quelqu'un qui ne sait pas grand chose, qui avait juste envie d'essayer?
Si une personne n'a jamais vraiment consommé, c'est très important de pas commencer avec quelque chose qui est trop fort. Quand je dis trop fort, je dis en pourcentage de THC ou en milligrammes, que ça soit dans des jujubes ou du chocolat. Quand quelqu'un vient dans le magasin puis dit qu'il a jamais consommé, je leur explique à fond qu'est-ce que chaque produit peut faire. Que ça, c'est mieux de rien ressentir que de trop ressentir puis juste, non, je veux pas faire ça. Quand ça vient à fumer, il y a des différentes sortes de cannabinoïdes qui sont dans la plante. Alors, il y a du THC, il y a du CBD, il y a du CBN. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes cannabinoïdes. La meilleure chose, ce serait du CBD. On a de la fleur, qu'on appelle, qui est très bas en THC. Alors, ça serait presque non psychoactif. Mais vous auriez les bénéfices du CBD, qui serait relaxation, baisse de pression artérielle. Notre moyenne de clients quand on a commencé, c'était entre 25 et 35 ans. Maintenant, la moyenne de nos clients, l'âge, c'est environ, je vous dirais, 45 à 60 ans. Beaucoup de personnes âgées pour la retraite. Au début, c'était juste les jeunes. Maintenant, on ne sait jamais qui va rentrer dans notre porte. C'est le fun dans ce temps-là.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLGI, @CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Un temps maintenant pour la contemplation des magnifiques paysages du Cap-Breton. Parce que le Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton a un programme qui fait le régal des artistes visuels canadiens. Le parc qui invite chaque année une artiste à travailler dans ce cadre paisible, inspirant et bucolique. Parc Canada qui offre ses mêmes résidences d'artistes ailleurs au pays, dont au lieu historique national de la forteresse de Louisbourg, au parc national de Banff, au parc national du Gros-Morne et celui de Terra Nova. Celui de la Nouvelle-Écosse résulte d'une collaboration entre Parc Canada et le Cape Breton Center for Craft and Design. L'heureuse élue cette année au parc donc des Hautes-Terres du Cap-Breton est Erika Germain, Madame Germain qui va prendre racine à Ingonish pendant 6 semaines. L'artiste canadienne qui s'est installée à Toronto est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de la Emily Carr University of Art and Design et d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université Cornell. Véronique Otton, agente d'éducation au public pour Parc Canada au Cap-Breton, en parle avec notre journaliste Daniel Aucoin, posté à Chétiquan.
C'est un programme qui est en place depuis déjà 5 ans et ça va être en place pour encore quelques années. C'est en partenariat avec le Cape Breton Center for Craft and Design et l'idée, c'est de donner à des artistes de n'importe où au Canada de venir travailler en à peu près 6 semaines ici au Cap-Breton, dans le paysage assez inspirant quand même des hauteurs du Cap-Breton. Donc, ils ont un espace à eux, un studio où ils peuvent travailler et ensuite, on partage leurs arts avec la communauté locale ensuite.
Alors, on parle surtout d'artistes visuels, c'est ça?
Habituellement, mais c'est comme ils disent en anglais, mixed medium, donc des gens qui travaillent avec toutes sortes de différentes formes d'art. Ça peut être de la sculpture, comme ça peut être de la peinture, l'art textile. Donc, on a eu vraiment toute une diversité d'artistes au cours des années. Et l'artiste cette année, c'est en peinture qu'elle travaille.
Par les années passées, est-ce que les artistes ont été beaucoup inspirés par les paysages, par l'atmosphère du Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton?
Ça semblerait que oui, effectivement. C'est un espace qui est vraiment beau. Donc, l'artiste en résidence est installé au pied de la montagne où est le sentier Franny, du côté d'Ingonish. Donc, c'est un paysage qui est vraiment frappant. C'est l'opportunité d'être en retraite aussi, de travailler, se concentrer juste sur leur art. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien pour l'art. Et ensuite, la communauté qui est très accueillante, de pouvoir partager avec le local ce sur quoi on travaillait pendant les 6 semaines. Les artistes aiment beaucoup ça aussi.
Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail de l'artiste de cette année, Erika Germain, qui est l'artiste en résidence 2022?
Certainement, oui. Donc, Erika est une artiste et elle travaille avec plusieurs différentes formes d'art. Son intérêt principal, c'est sur les mots, la poésie et comment ça s'est utilisé pour parler, partager la culture, partager la communauté. Donc, cette année, ce qu'elle fait pour nous aussi en artistes en résidence, elle se concentre sur les noms des gens, les prénoms et les noms de famille. Et elle transpose le nom avec un motif de différentes couleurs sur des petits tableaux inspirés par le nom lui-même et par l'histoire de la personne à qui le nom appartient. Donc, dans son projet, il y a un peu d'échange. Donc, elle a peinture les gens qu'elle connaît, elle a peinture les noms des gens dans sa famille et elle demande en échange que les gens lui racontent l'histoire de quelqu'un qui leur est proche, leur donner son nom et elle va en faire une peinture aussi. Donc, il y a un élément d'échange où elle va changer sa peinture contre l'inspiration pour le prochain tableau, à inspirer un peu de la communauté locale, des couleurs du Cap-Breton et des gens du Cap-Breton aussi.
Intéressant. Alors, Mme Germain, qui a commencé sa résidence le 1er octobre, elle demeure à Inganish pendant 6 semaines jusqu'au 12 novembre. Est-ce que les gens comme ça ont l'occasion de visionner les créations de l'artiste bientôt?
Donc, la semaine prochaine, on est encore en train de collaborer avec les communautés, des organismes communautaires locales pour finaliser exactement où les tableaux vont être présentés. Mais oui, au cours de la semaine prochaine, il va y avoir quelques endroits où on va avoir un peu des pop-up où ce que Erica va se présenter avec ses peintures pour faire cet échange-là entre la peinture qui est déjà faite et l'inspiration pour la prochaine peinture. Ça va être au cours de la semaine prochaine, un peu partout autour de la Cabot Trail, on espère, et à Sydney également.
Alors, on espère que les gens iront visionner les tableaux de Madame Germain. Alors, Véronique Autanque est agente d'éducation du public pour Parc Canada au Cap-Breton. Merci de nous informer de ce projet.
Ça fait plaisir.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
L'escroquerie par hameçonnage est en hausse à Ottawa et à travers le pays. Et lequel d'entre nous n'y a pas été exposé? On nous appelle pour des contraventions de stationnement non payées. Certains se font passer pour des agents de Revenu Canada, de l'assurance sociale, pour votre banque, un fournisseur par exemple. D'autres affirment avoir votre mot de passe en main. Ils vous en donnent même les premières lettres. Ils vous téléphonent de numéros canadiens, étrangers, locaux, provinciaux, vous rejoignent par courriel, texto ou via les réseaux sociaux. Ils se font même parfois passer pour des employés de la santé publique ou d'hôpitaux. Faites attention, ne mordez surtout pas à l'hameçon. Ils veulent vous voler, bien sûr, des informations confidentielles, vous soutirer de l'argent, ou pire encore. Il y a tant de fraudeurs que le Centre antifraude du Canada compte des plaintes par dizaines de milliers. Ce centre qui reçoit des appels de ceux qui se sont fait prendre, mais aussi de citoyens excédés d'en être la cible. Le Centre antifraude qui a lui aussi été la cible des fraudeurs. Notre journaliste Yasmina Dagri est à Ottawa. Elle en parle avec un agent du Centre antifraude du Canada, Jeff Horncastle.
Bonjour Jeff Horncastle, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Le nombre de fraudes a augmenté depuis la pandémie partout au Canada, Jeff. Quels sont les types d'escroqueries fréquents au Canada et ceux que nous pouvons trouver dans notre quotidien?
Donc, basé sur le nombre de rapports pour commencer en 2021, c'était la fraude à l'identité avec plus de 30 000 signalement reçu au Centre antifraude du Canada. Après ça, c'était l'extorsion avec 14 000 signalements reçus, avec un montant total perdu de 18 millions. Si on base sur le montant perdu, évidemment, ça va être les fraudes d'investissement avec un montant total perdu de 164 millions.
Oui, c'est beaucoup d'argent, ça.
Oui, oui. On a vu que ça a augmenté beaucoup.
Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Vous, au Centre antifraude du Canada, vous avez reçu, vous l'avez dit tout à l'heure, près de 68 259 signalements de fraude depuis le début de l'année 2022. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment se protéger? Comment est-ce qu'on peut se protéger des individus mal intentionnés?
Donc, la règle principale pour toutes les fraudes, c'est différent évidemment pour tous les types de fraudes, mais c'est vraiment important de prendre le temps. Prenez 5 minutes s'il faut, prenez une semaine, prenez le temps qu'il faut pour faire vos recherches. Si vous recevez un message d'hameçonnage, contacter l'entreprise ou l'organisme directement par téléphone pour confirmer si le message vient vraiment d'eux. Si vous voulez faire des achats en ligne, important de faire des recherches, aller voir des revues, vérifier le site web, l'adresse du site web. Si vous recevez un appel de quelqu'un qui se passe pour quelqu'un que vous connaissez, faites l'appel vous-même directement à la personne avec au numéro de téléphone que vous êtes familier avec. Comme ça, vous allez être certain ou certaine que vous parlez avec la bonne personne.
Que faire aujourd'hui si on est victime de fraude?
Donc, c'est très important, si vous êtes victime, de contacter votre police locale, mais aussi de contacter le Centre antifraude du Canada. Important à noter encore que le Centre antifraude du Canada ne fait pas d'enquête, mais on partage l'information avec les enquêteurs. Donc, on est vraiment une base de données centrale pour les enquêteurs. Et aussi, on partage l'information avec le public pour essayer de prévenir la fraude et d'éduquer le public.
Est-ce qu'on est en sécurité sur Internet?
Donc, on pense pas qu'il y ait une façon de complètement vous protéger, mais évidemment, si vous allez magasiner sur l'Internet, soyez certain ou certaine que vous allez sur des vrais sites web. Souvent, on voit que les fraudeurs vont copier le nom de compagnie, ils vont changer peut-être une lettre dans l'adresse du site web. Donc, c'est très important de vérifier toute l'information que vous pouvez avant de donner votre information personnelle. Aussi, c'est très important de vérifier au moins une fois par année votre dossier de crédit pour être certain qu'il n'y a pas eu de demande ou des applications pour des cartes de crédit, des choses comme ça. Mais comme sécurité, important de prendre toutes les mesures que vous pouvez avec des logiciels antivirus, changer vos mots de passe, comme mentionné, essayer d'utiliser des différents mots de passe pour chaque compte que vous avez. Parce que malheureusement, avec vous avez mentionné la pandémie, la COVID, ça a changé les méthodes, pas seulement pour les aînés, mais il y a tellement plus de monde qui font plus sur l'Internet maintenant qu'avant. Les fraudeurs le savent, ils essaient de frauder le plus qu'ils peuvent. Rappelez-vous que les fraudeurs peuvent usurper des adresses courriel, des numéros de téléphone, donc basez-vous jamais sur le numéro de téléphone ou l'adresse courriel qui apparaît. Important de jamais vous baser sur ce que vous voyez.
Merci beaucoup, Jeff, d'avoir répondu à vos questions aujourd'hui.
Mon plaisir. Merci.
Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. La demi-heure passe très vite. Nos collaborateurs cette semaine sont Daniel Aucoin, Marie Hélès, Yasmina Dagri, Aurélie Forsen et Maxime Gauthier, coordonnateur national Stéphane Bédard. Ici Boris Chassagne au micro et à la réalisation. Point de vue, on vous le rappelle, vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Merci d'avoir été là. Retrouvez-nous sur canada-info.ca. Des tonnes de reportages vous y attendent. Découvrez-y le Canada sous toutes ses coutures. Ciao!